et bienvenue à notre émission Aime l'été, jour 2 de cette nouvelle saison, notre marathon estival qui vous convie du lundi au vendredi entre midi et 13 heures à une suite de découvertes d'activités, de rencontres fortes, intéressantes et passionnantes et parfois inusitées, des sujets variés ancrés aussi dans l'actualité, mais qui nous ouvrent sur des parcours étonnants, des réalisations qui ne manquent pas d'intérêt. Notre équipe de recherchistes est bien en selle pour vous dénicher de belles propositions tout au long de l'été. Ici Chantal Lavoie, soyez avec nous pour cette prochaine heure. Voici Aime l'été. Et aujourd'hui, il sera question de sensibilisation aux AVC. C'est le mois de l'AVC, juin. Alors, on reçoit le docteur Faed, neurologue et neuroradiologiste d'intervention à l'hôpital d'Ottawa. Et on va tenter de reconnaître mieux les signes d'un AVC. Nous allons discuter également avec Camille Laforêt d'un organisme qui accompagne les personnes ayant subi un AVC et leurs proches dans le processus de réintégration à la vie quotidienne. Aussi, une enseignante franco-ontarienne qui a écrit un livre jeunesse qui a été sélectionné pour être utilisé dans un projet destiné aux salles de classe de français langue seconde. Et aussi une histoire très touchante qui pourrait faire l'objet d'un film, La petite fermette du mieux-être à La Motte dans la région de Val-d'Or, qui est un refuge ou un sanctuaire pour les petits animaux en situation de handicap. Alors voici votre émission « Aime l'été ». Et un menu donc très copieux ce midi. On aura le ventre plein assurément. Nathalie Barrette, collaboratrice avec moi, qui sera toujours en studio. Alors, c'est merveilleux. Allô. J'ai une compagne. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas non plus Clarence Robitaille-Meloche, notre autre collaboratrice à la recherche. Alors, on va commencer, bien sûr, sur des chapeaux de roue. Nathalie, bien des choses à dire avec ce beau projet-là, justement, de cette petite fermette. Vous avez déniché quelque chose d'absolument fabuleux, Nathalie.
Je t'ai tutoyé.
Oui,
mais...
bien sûr.
Alors, écoute, c'est deux filles incroyables qu'on va avoir avec nous au téléphone tantôt.
Oui.
L'histoire de Camélia, Amélia, qui est partie, a eu une fermette avec des animaux handicapés. Je ne veux pas en dire trop.
Non, parce qu'elle est tout juste
à
l'autre bout
du
fil.
Mais c'est une
avec
histoire
sa complice,
vraiment intéressante.
Oui. Alors oui, puis ça, je disais que ça pourrait faire l'objet d'un film. On va les accueillir tout de suite, si tu veux, Nathalie.
Oui.
Alors oui, bonjour, Amélia Kisman et Caroline Arcand. Vous êtes là.
Bonjour.
Alors, vous êtes dans la région de Val-d'Or, La Motte, c'est à côté?
Ben là, on est rendu à Chanteneuf. On était à La Motte, mais on a déménagé à Chanteneuf. Fait qu'on est encore dans la région de
Val-d'Or. OK.
Proche de Val-d'Or.
D'accord. Ben oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça pourrait, votre histoire, là, ben moi, je porterais ça à l'écran, là, si j'étais scénariste, je ferais une belle histoire avec ça. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais en tout cas, ce serait une belle façon de financer votre projet, d'ailleurs. Vous devriez approcher un scénariste. Chose certaine, oui, c'est ça, cette petite fermette. D'abord, on va commencer avec le point de départ de cette belle aventure, là. C'est quoi le point de départ, votre sensibilisation par rapport aux animaux handicapés? On parle jamais de ça.
Ben, voulez-vous savoir comment ça a commencé? Je suis pas sûre de comprendre la question.
Oui, oui, c'est ça. Allez-y. Ben, c'est le point de départ de cette aventure-là. Comment ça a commencé?
Ça a commencé il y a à peu près 5 ans. Puis c'était vraiment juste une fermette pour moi. J'étais censée d'avoir 12 poules, puis c'était ça mon maximum. Puis, tu sais, avec le temps, je ramassais des vieilles poules. T'sais, les gens ils me disaient, veux-tu ma poule? Sinon, je vais la tuer. Elle vient. Fait que je ramassais des vieilles poules. Je ramassais des canards en besoin, des canards qui vivaient vraiment dans des mauvaises conditions. Puis, de plus en plus, je ramassais des rescues, puis non des poules pondeuses, puis des lapins de viande. Puis, je me suis dit, hey, je peux commencer un sanctuaire. Je peux venir en aide aux animaux en besoin.
Mm-hmm.
Puis, ça a comme développé avec le temps aussi. Le premier animal qui m'a vraiment marqué puis qui a vraiment débuté la fermette en tant qu'un sanctuaire pour animaux handicapés, c'était ma chef Denis, qui venait de l'Ontario, elle est née dans la neige, puis ses pattes ont tombé en arrière. Fait qu'elle avait juste ses pattes en avant, puis elle marchait avec une chaise roulante. Puis on l'a accueillie au sanctuaire, puis c'est vraiment elle qui m'a tout appris, puis qui m'a enlignée dans cette direction.
Eh oui, la petite chef d'Émi. Oui, c'est ça. Puis qui était très heureuse hein, d'avoir, c'est ça, en quelque sorte, son petit fauteuil roulant, façon de parler, là, de pouvoir gambader de nouveau.
Elle allait tellement vite, elle zoomait partout, elle était tellement heureuse.
C'est vraiment quelque chose, un beau témoignage. Et puis, il y en a eu d'autres comme ça. Puis, vous êtes capable d'aller vous alliez les chercher très loin, parfois à Montréal aussi, notamment. Vous m'entendez bien? C'est ça.
Non,
mais vous alliez les chercher très loin, ces animaux-là aussi, parfois.
Oui, parfois en Ontario même.
Imaginez, c'est quand même quelque chose. Et puis, c'est ça donc. Et puis, il fallait aussi, pour certains animaux, vous avez même contacté des gens pour fabriquer aussi des prothèses ou enfin des espèces de fauteuils adaptés.
Mm-hmm. Dans le temps, on travaillait avec une madame qui faisait des prothèses pour les personnes. Puis, elle n'a jamais fait ça pour les animaux, mais elle était très prête à travailler avec nous. À se lancer dans cette aventure avec nous. Fait qu'elle faisait des prothèses pour nos animaux. C'est vraiment cool. On n'a pas encore en ce moment des animaux qui ont besoin des prothèses, mais quand ça serait le temps, on va l'appeler encore.
Oui, c'est ça. Donc, de développer cette expertise, écoutez, c'est vraiment fort intéressant parce qu'en même temps, c'est devenu une activité de zoothérapie.
Mm-hmm. Parce que mais plus la zoonation, qui est un détente, de venir en aide aux personnes en besoin en utilisant nos animaux. Puis moi, j'ai un bac en psychologie, puis des études sur les personnes handicapées. Fait que je me suis dit, hey, comment je peux jumeler mon amour avec les animaux, pour les animaux, surtout les animaux handicapés, puis mes études dans la psychologie, puis dans les personnes, dans... C'est un désir d'aider des personnes en besoin. Fait que j'ai créé ça, puis on vient en aide, on visite des foyers, on visite des places, des centres de réadaptation pour les personnes avec des déficiences. Puis on offre très souvent soit nos services à un prix abordable ou même gratuit, parce que pour la zoonation, notre but, c'est pas de faire l'argent, puis c'est vraiment juste d'aider, d'apporter du bonheur.
Ben, c'est ça, exactement. Bon, Nathalie, tu avais une question.
En fait, des fois, ces activités-là, vous les faites bénévolement, vous les faites gratuitement parce que les gens n'ont pas de sous.
Ouais.
Ils n'ont pas de sous à vous donner, puis vous le faites gracieusement.
Oui. On a des tarifs pour nos services. Mais si jamais une compagnie nous contacte et dit « Ah, ça ne rentre pas dans notre budget », je me suis dit « Ben, tu sais, donnez-nous ce que vous êtes capable, ce qu'on veut, là ». À chaque saison, je dirais, on fait une tournée dans une ville et on offre une visite, nos services, à des organismes qui travaillent avec des personnes vulnérables, des personnes qui sont dans notre clientèle cible. Puis on charge rien, c'est juste pour aider.
Bravo. Mais bravo, bien sûr, parce que c'est quand même, il y a des coûts associés à ça. Alors, on parlera éventuellement d'argent et tout. Vous avez eu besoin de sociofinancement, mais on pense à des soins qu'on doit prodiguer aux animaux. Il y a des physiothérapeutes animaux aussi, hein, puis pour renforcer les muscles de ces animaux-là, parfois, bon, qui sont atrophiés. Enfin, il y a plein de choses. Là, il y a trois dates que moi, j'avais des articles, Nathalie m'avait donné des articles à ce sujet-là sur votre histoire, et il y a trois dates à retenir. Bon, alors, un article paru le 4 juillet 2022 où on parle de votre beau projet, c'est merveilleux. Après ça, il y a une autre date, c'est le 4 octobre 2022, en fait, dans mes articles, là. Mais là, c'est le désastre. Parlez-nous de ce qui s'est passé.
Oui. Fait que nous, il fallait qu'on trouve une autre ferme l'été de 2022. Puis on a trouvé une belle place, c'était incroyable.
Mais là, c'est parce que il y a eu un incendie. Vous avez perdu presque la totalité de vos animaux.
Ben c'est ça, parce qu'on a acheté cette maison, puis deux semaines après, je me réveille, puis la grange est en feu. Puis quatre minutes après, ma maison est en feu, puis on a tout perdu. On a perdu 200 animaux. Mon projet était à terre. J'avais plus rien.
Mais tu t'es retroussé les manches. T'as travaillé fort, Amélia. T'as travaillé fort. Puis tu t'es dit que tu ne pouvais pas laisser tomber ce projet-là parce que c'était ton projet de vie.
Il y avait un petit moment après l'incendie où j'ai pris un petit pas de recul, mais ça a pris 2 mois, puis après ça, j'étais comme, je peux pas lâcher ça. J'ai fait une visite à l'hôpital de Malartic, puis avec quelques chefs, il me restait 20 chefs. J'ai fait une petite visite à l'hôpital, puis ça comme, la flamme est revenue en moi, puis il fallait que je recommence ça. Il fallait que je trouve un moyen pour
repartir,
pour
parce que le projet était tellement fort, tellement beau, que finalement, il y a eu toute une solidarité aussi dans la région. Parce que là, mm-hmm. après ça, vous avez procédé par du sociofinancement, vous êtes allé ramasser des fonds et les gens autour de vous ont collaboré.
La communauté était incroyable. Toute la communauté est venue derrière nous, puis tu sais, ils nous ont aidés financièrement avec leur temps, leurs bras. Ils sont venus nous aider à la ferme. Juste un soutien émotionnel aussi. C'était vraiment incroyable de voir toute une région venir en aide.
C'est merveilleux. Et puis, donc, il y a eu des événements d'organiser. Mais là aussi, intervient Caroline Arcan qui va penser à un livre. Alors, Caroline, elle est au bout du fil aussi. Elle nous entend?
Oui, bonjour.
Bonjour, Amélia. Caroline, c'est-à-dire. Alors, Caroline, justement, à partir de quel moment, là, vous décidez d'écrire ce livre-là, cet album jeunesse?
En fait, j'avais toujours eu cette idée-là d'écrire... un livre. Moi, je suis, j'ai un cochon miniature comme animal de compagnie qui a sa page Facebook qui s'appelle Les Aventures d'Oscar. Puis je me disais que Les Aventures d'Oscar pourraient être une petite série pour enfants.
Okay.
Donc, l'idée était là. Mais ce que j'aime dans les livres pour enfants, c'est que l'enfant en retire quelque chose, que c'est pas juste du pur divertissement, qu'il y a une petite morale ou un petit apprentissage qui est fait. Puis je trouvais pas la petite twist à donner aux aventures d'Oscar pour répondre à ce souhait-là. L'année dernière, j'avais commencé à faire du bénévolat pour la fermette dans différents événements, puis ça n'a pas été long que j'ai eu le flash en sortant d'un événement, puis je me suis dit, mais je l'ai l'idée. C'est parfait, les animaux de la fermette, c'est les personnages parfaits pour ce que je veux faire. On va pouvoir parler de la différence, on va pouvoir parler de l'inclusion, de l'acceptation de soi et tout. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Puis, en une soirée, c'était écrit. C'est sûr que ça a été modifié après, mais en une soirée, moi, j'ai écrit à Amélia en disant, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu penserais d'un livre pour enfants? T'es comme, ah oui, oui, oui. Puis 15 minutes plus tard, je lui disais, mais veux-tu le lire? Elle était comme, mais lire quoi? J'ai déjà écrit...
Ah là là, alors vous étiez vraiment inspirée ce soir-là. Alors effectivement, et quand je parlais de mes dates, là, mes 3 dates, alors effectivement, là, le 4 novembre 2023, ben, c'est le lancement de cet album jeunesse.
Oui, exactement. Donc, un album purement régional. On est allé chercher une illustratrice de Val-d'Or aussi qui a illustré de manière exceptionnelle les personnages. Puis,
Alors, c'est vraiment... Et puis, bon, est-ce qu'il y a d'autres idées qui pourraient émerger, d'autres aventures? Parce qu'avec les animaux que vous avez, ça doit être inspirant, finalement, tout ça.
Il y a un autre livre qui est en écriture en ce moment, oui.
Parfait, bien, mon Dieu.
Si les gens veulent se les procurer, les livres, on fonctionne de quelle façon?
En ce moment, à part dans les librairies en Abitibi, où est-ce que là, ils sont disponibles, sinon c'est la vente en ligne, donc soit via le site de la Petite Fermette ou un autre site qui s'appelle la boutique d'Oscar.
D'accord. Alors, la Petite Fermette, le site web, c'est facile à trouver quand même. Parfait. Et puis là aussi, bon, vous avez eu besoin quand même de sociofinancement, justement, pour repartir le projet et tout. Et puis bon, comme on disait, ça entraîne des coûts quand même importants. Là, il faut les soigner, il faut les nourrir. Hein? Puis bon, et puis ben, effectivement, vos budgets, j'imagine, les budgets sont limités, d'autant plus que vous offrez de la zoothérapie quand même sans vraiment de frais. Enfin, bon, c'est pas tout le monde qui paie, ça dépend toujours de la clientèle. C'est ce que je comprends un petit peu entre les lignes. Et puis bon, alors, alors, est-ce qu'on peut toujours contribuer à votre projet? Comment vous voyez ça là, par rapport à l'argent?
Ben oui, on prend tout le temps des dons. Les gens aussi, on a un beau système ou un service de parrainage où les gens ils vont parrainer un animal en échange d'un montant soit mensuel ou annuel. Fait qu'ils vont, tu sais, l'animal va avoir une marraine ou un parrain, juste un, unique. Puis on envoie des photos à chaque 2-3 semaines, il reçoit des cadeaux par la poste. Puis c'est vraiment une façon de créer un lien intime avec notre animal, puis de contribuer à les frais de soins, parce que les animaux en général, ça coûte cher, puis t'ajoutes un handicap à ça, ben ça coûte vraiment cher. Fait que ça aussi, les gens, ça a vraiment explosé. Puis on a, en ce moment, je pense qu'on a une quarantaine de parrains. Ça nous aide beaucoup.
Oh là là, quand même, aussi, c'est impressionnant.
C'est une autre façon de nous aider.
Alors, effectivement, puis là, ben, j'imagine qu'on vous appelle aussi peut-être pour vous donner des animaux aussi que l'on retrouve peut-être. Enfin, j'imagine vous devenez comme une espèce de refuge et sanctuaire en même temps pour les animaux. Et puis, est-ce que votre projet a donné l'idée à d'autres de faire un peu la même chose dans d'autres régions?
Je sais pas.
À votre connaissance, hein, c'est ça?
Il y a beaucoup de gens qui sont encouragés ou motivés par notre projet, mais je ne sais pas si ça a inspiré quelqu'un de starter un autre sanctuaire.
Mais en tout cas, chose certaine, vous avez quand même réussi dans un premier temps à recueillir quand même pas mal d'argent, et puis avec tous les dons que vous avez eus pour vous relancer. Et puis là, vous aviez perdu presque la totalité de vos animaux. Vous avez quand même récupéré votre petite chèvre. Est-ce que Demi est toujours vivante?
Non.
Oh, elle n'est pas bon. Mais évidemment, tous vos animaux ne sont pas nécessairement en situation de handicap, là, entre guillemets. Là. Ça se peut qu'il y en ait qui est tout simplement peut-être des... parce que ça peut être même au niveau de la santé mentale, je disais ça. Là, c'est... Mm-hmm. Ah oui, c'est pas juste physique, hein, apparemment.
Oui, on a quand même des critères pour accepter un animal à notre sanctuaire, parce que sinon, on a des demandes à chaque semaine pour prendre des animaux, puis on est quand même limité en espace, puis aussi en sous, étant un OBNL. Mais on prend des animaux handicapés, des animaux en besoin, en situation d'urgence, des animaux avec des problèmes de comportement, des animaux malades ou blessés. Fait que, les autres, on va soit les essayer de trouver une bonne famille via notre communauté, on essaie de les aider, de les guider à trouver une bonne famille, mais on ne peut pas tout prendre.
Non, c'est ça, vous pouvez les relocaliser finalement, parce qu'il y a des animaux aussi qui peuvent en fait vivre de l'anxiété, on le sait, c'est vraiment, c'est de plus en plus documenté d'ailleurs, mais chose certaine en tout cas. Bref, puis évidemment quand vous avez comme votre petite chèvre Demi, évidemment à l'époque c'était magique aussi, hein, parce que c'était, on s'attache encore davantage quand on voit ces animaux qui, finalement, ont une situation de handicap. C'est très particulier aussi, le rapport que les gens développent avec ces animaux-là, bien entendu. Alors, écoutez, c'est un beau projet, puis je vous le dis, là, on ferait un beau film avec ça.
Oui.
Je le répète. En tout cas, mais les deux, là, vraiment, c'est un beau projet. Puis, on attend peut-être un autre album, là, de la part de Caroline Arcan. Et puis, Amélia, continuez votre beau travail. Et puis, en tout cas, j'espère que ça va faire des petits un peu partout, là. Parce qu'évidemment, il y a bien des... Hein, le Québec est grand. Alors, les besoins, j'imagine, sont grands aussi de ce côté-là. Alors, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et continuez à faire votre beau travail.
Merci
et puis,
à vous deux.
Merci à vous
merci
deux.
Merci beaucoup. Hein?
Merci.
Merci,
bonne journée.
Merci. Bonne journée. Eh bien, donc, on poursuit avec Aime l'été et on passe au fond d'un livre à l'autre jusqu'à un certain point parce que là, on va parler effectivement d'une autre belle aventure, hein, Nathalie, oui. Avec une enseignante franco-ontarienne qui a écrit un livre parce qu'elle trouvait qu'il manquait de livres destinés aux enfants en apprentissage de langue seconde. Alors, on va lui parler tout de suite, si tu veux bien. On accueille Céleste Courtz. Bonjour!
Bonjour, Chantal.
Oh, vous êtes à Windsor, hein? Je pense que c'est là que vous vivez présentement.
Oui, j'habite à Windsor.
Bon, parfait. Et puis, vous avez grandi à Tecumseh, en Ontario, et vous avez passé une grande partie de votre vie dans l'enseignement, finalement. Vous avez enseigné une bonne partie à la maternelle, et là, vous êtes professeur de primaire.
Exactement, oui.
Bon.
Ça fait 15 ans depuis que j'enseigne.
Ah là là. Et puis, évidemment, vous venez de tomber en vacances, façon de parler ou presque, là. C'est presque terminé pour vous, hein?
deux jours de reste.
Eh oui, c'est bien. Alors, vous allez pouvoir vous reposer. J'imagine que des petits du primaire, hein, ça bouge. J'imagine que ça bouge plus qu'avant. Là. Qu'en pensez-vous?
Oh, bien sûr, oui.
Jusqu'à un certain point, oui, c'est ça. Bon, alors, je ne sais pas si vous remarquez de grands changements dans les enfants d'il y a 15 ans versus les enfants d'aujourd'hui, mais enfin, j'imagine que, bon, vous pourriez en dire long là-dessus. Eh bien, en fait, on vous accueille parce que, bon, oui, c'est vrai, vous êtes une enseignante de français langue seconde. Alors ça, on pourrait parler, bien sûr, aussi de la situation de la langue française à l'extérieur du Québec. Bien entendu, vous avez, j'imagine, votre opinion là-dessus. Mais on va juste situer aussi, dans un premier temps, le fait que vous avez vous aviez toujours eu le goût de la lecture, mais vous avez eu le goût d'écrire un livre parce que vous trouviez effectivement qu'il manquait de livres destinés à des enfants en apprentissage de langue seconde.
Oui, exactement. Alors, comme vous avez mentionné, ma carrière, c'est l'enseignement, mais ma passion était toujours d'être auteur. J'espère que la participation de mon livre au FSLGRE va me permettre à plus grand nombre de personnes d'acheter mon livre.
Oui, parce qu'en fait, il faut le dire, vous avez été sélectionné votre livre a été sélectionné parmi 30 titres, hein, et au total, on en choisissait 8 pour justement, diffusé dans les écoles comme ça pour la langue seconde, l'apprentissage de langue seconde. Alors, c'est pas rien quand même.
Non, exactement. Alors, oui, j'ai hâte, je suis si reconnaissante que mon livre a été sélectionné et que des enfants du monde entier vraiment puissent partir à l'aventure avec Coralie.
C'est ça, parce que on va dire le titre, hein, oui. de ce livre, Les aventures de Coralie, la coccinelle, le voyage dans l'espace. Enfin, vous êtes vous-même une grande voyageuse, alors ça vous a inspiré.
J'adore voyager, je suis vraiment globe-trotteuse, alors ça faisait partie de cela, mais... pour moi, c'était que j'ai écrit mon livre en 2021 alors que j'étais en congé de maternité. J'ai été inspirée en berçant ma fille pour qu'elle s'endorme au soir et j'ai imaginé toutes les aventures qu'elle vivrait en grandissant.
Ah, c'est ça. Donc, c'est en racontant des histoires à votre fille que vous avez eu l'idée forcément d'écrire la vôtre. Et puis, mais c'est ça. Donc, c'est un livre destiné aux écoles d'immersion. Mais là, c'est vraiment le lancement, c'est-à-dire à partir de l'automne, là, ça va être partout à travers le Canada, hein?
Oui, exactement. Alors, j'ai hâte pour ça.
Et c'est destiné à des enfants de quel âge?
Vraiment à l'âge de 3 à 7 ans.
D'accord. Et puis, c'est à peu près, c'est l'âge de vos enfants, des enfants à qui vous enseignez finalement.
Exactement, oui. Alors, la maternelle jusqu'à la première année, je dirais, spécialement pour les écoles d'immersion, les écoles francophones, je dirais plutôt pour les plus petits, 3 ans, 4 ans.
Et en fait, vous disiez que les livres qui vous étaient accessibles, bon, parfois le vocabulaire était un peu compliqué. Vous trouviez que c'était un peu trop difficile parfois pour des élèves en apprentissage de langue seconde.
Exact. Alors, mon livre contient un vocabulaire plus simple, mais il aborde également les attentes du programme d'études de la maternelle et de la première année pour l'Ontario.
Oui, c'est ça. Donc, alors, c'est un projet à la base, là, ce projet-là vous avez été, comme je le disais, sélectionné dans le cadre d'un projet qui existe aussi aux États-Unis, apparemment.
Oui, le concours mondial pour français langue seconde, c'est débuté juste avant l'année scolaire de 2018-2019, mais c'était inspiré par les travaux de Parnell Rip aux États-Unis.
OK, donc par rapport... est-ce qu'il y a des critères très spécifiques à respecter?
Oui, alors, ils doivent avoir été écrits à l'origine en français. Le texte doit être accessible aux apprenants de français langue seconde et il doit être facile de l'acheter. Alors, ça, c'était les trois critères pour les livres.
Alors, j'imagine, c'est Nathalie, alors j'imagine que vous avez lu votre livre à vos étudiants. Quelle a été leur réaction?
Oh, ils ont bien aimé partir à l'aventure avec Coralie. Puis aussi, c'était, comme j'ai mentionné, le vocabulaire est simple. Mm-hmm. Alors, c'était facile à suivre. Puis, ils pouvaient participer, puis aussi comprendre. Et ça, c'est vraiment l'importance quand on est en immersion. On veut que les élèves puissent comprendre ce qu'on les lit. Alors, ils pouvaient dire, « Oh, je m'appelle. Oh, je sais. Bonjour, je m'appelle. Ah, je peux compter à rebours. Je connais les nombres. Je connais les couleurs. Ou je comprends petit et grand. » Alors, pour moi, ça, c'était spécial parce que ils ont compris et je voulais cela.
Oui, et puis ça vient, je pense, avec aussi des activités pédagogiques dans le cadre de ce livre aussi.
Oui, alors, ce que j'aime à propos du programme, c'est qu'il y a un espace sur le site web pour des ressources collaboratives. Mm-hmm. Alors, c'est un endroit où les gens peuvent partager les matériels qu'ils ont créés pour accompagner les livres.
Ah, ben c'est bien, c'est bien. Alors, et puis là, donc, on peut se procurer, évidemment, les enseignants savent où se procurer le livre, mais enfin, on va sur, est-ce que vous avez un site web?
Oui, mon lien, c'est coralielacoccinelle.com.
Ah, merveilleux. Eh bien, Céleste Courtz, alors on retient le titre du livre, Les aventures de Coralie, la coccinelle, le voyage dans l'espace. Alors, très intéressant et puis ce beau projet, puis on espère que vous allez être inspirée de nouveau.
merci beaucoup, l'apprécie.
Alors, merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir et je vous souhaite une bonne journée.
Merci, Parima.
Merci beaucoup.
Aime l'été.
Eh bien, re-bienvenue à Aime l'été, deuxième moitié d'heure, Chantal Lavoie qui vous accompagne et avec Nathalie Barrette qui est en studio. Et Nathalie, on va parler de sujets très sérieux au cours de la prochaine demi-heure, mais il en faut parfois. Et puis, on parle d'un sujet fort intéressant. On va parler, en fait, c'est le mois de sensibilisation aux AVC. Alors, on va en parler avec deux personnes, d'une part un médecin aussi. Ce sera passionnant sûrement de parler de tout ça. Mais on va parler aussi cette semaine de sujets plus légers,
oui,
Nathalie.
Oui, bien en fait, moi, hier, je suis allée au cinéma. J'ai une sortie solo. Et on parlait beaucoup d'un film qui est le plus gros succès français depuis 10 ans. Alors, je suis allée voir un petit truc en plus. J'ai adoré Comédie touchante. Puis, je vous en parle vendredi et on va être avec José Toumchou. Pour l'heure, oui.
Alors, on va passer l'heure
avec lui.
Et on va parler, on aura d'autres sujets,
on va parler cinéma, ciné-parc.
C'est intéressant. Et puis, évidemment, le film en question dont tu parles, les acteurs, ce sont vraiment des gens en situation de handicap. Alors, vraiment, c'est touchant.
Ils sont très bons. Oui. Ils sont très bons. C'est un film à aller voir.
Ah, tout à fait. C'est vraiment, je l'ai vu moi aussi.
Oui.
Alors, on va en parler.
on en parle vendredi.
Oui, tout à fait. On accueille Camille Laforêt pour parler du mois de la sensibilisation aux AVC, mais aussi pour parler d'un organisme qui accompagne les gens, non seulement qui ont subi un AVC, mais aussi les proches aidants. Bonjour, j'accueille Camille Laforêt. Vous êtes là, au bout du fil.
Oui, bonjour.
Ça me fait plaisir de vous accueillir. On va parler de cet organisme qui s'appelle Arter, mais il y a toute une historique à ça. Là, on peut en parler d'emblée, oui, parce que ça s'est appelé autrement à un moment donné.
Oui. Oui, effectivement. Là, auparavant, on avait l'acronyme APIA AVC. Parce que ça a un rapport un peu avec l'historique de l'organisme là, qui a été créé en 1985 par un groupe de personnes aphasiques, donc avec des troubles de la communication. Mm-hmm. Puis par la suite, pour s'éloigner un peu des acronymes, on est devenu l'organisme ARTER là, en 2019.
Plus facile, oui. Et puis évidemment, ARTER, bon, évidemment, c'est un lien aussi avec l'AVC, bien évidemment. On parle de caillots et tout. Là, c'est sûr que, bon, au départ, c'était un service qui était destiné surtout aux gens qui avaient subi un AVC. C'était de l'accompagnement, enfin, plein de services pour ces gens-là. Mais finalement, vous vous êtes aperçu qu'il y avait d'autres besoins de soutenir aussi les proches.
Oui, exactement. En fait, là, à la base, comme ça avait été créé pour des gens avec la limitation de l'aphasie qui découlait beaucoup de l'AVC, on s'est rendu compte là, finalement qu'on devait accueillir à peu près toutes les personnes, donc toutes les limitations après l'AVC. Ça s'est ouvert à toute personne ayant subi un AVC, ainsi que les proches qui vivent aussi des difficultés là, par rapport aux limitations du proche à aider, finalement.
Oui. On va, c'est sûr, parler avec Dr. Faed, que nous allons rencontrer tantôt, avec qui on va discuter tantôt. On va parler, bien sûr, des types d'AVC. Il y en a quand même, il y en a plus d'un, là. Il y a aussi, bon, on va parler, bien sûr, des symptômes, en fait, de la prévention et tout, mais il y a aussi, bon, on parle des signes, justement, la reconnaissance des signes, et puis on traduit ça par les signes vite, parce que V pour visage, est-ce que le visage est-il affaissé? I parce qu'il y a cette incapacité, d'une part, à lever les deux bras normalement. T pour trouble de la parole, trouble de la prononciation. Et E pour extrême urgence, pour alors t'appel le 911. Alors, c'est ça. Donc, à la fois, vous êtes, j'imagine, un organisme aussi qui sensibilisait les gens à cette reconnaissance des symptômes.
Oui, absolument. En fait, là, dans mon travail aussi, il y a une portion là, d'aller faire la promotion de l'organisme pour aller aussi sensibiliser et éduquer la population aux signes. T'sais, l'acronyme VIT, ça englobe vraiment plusieurs signes là, au niveau de l'AVC, mais c'est super important parce que la prise en charge doit être très rapide. On a du chemin à faire encore là, au niveau de la sensibilisation au Québec, mais tu sais, de plus en plus, là, on voit des améliorations dans les services et tout ça.
C'est ça. Donc, alors, parlez-moi justement le type de service que vous offrez. D'abord, à des gens qui ont subi un AVC, puis après ça, ben, aux proches, là, comment ça se passe?
Oui, exactement. Donc, nous, finalement, comme organisme, on arrive en phase là, au niveau du cheminement après l'AVC, en phase de réintégration sociale. Donc, des fois, bon, parfois quand les gens passent par la réadaptation après un AVC, ils ont une équipe de professionnels pour la réadaptation. Et ensuite, quand il y a un retour à domicile, ben nous, nos services arrivent là. Donc, au niveau des services qu'on offre, c'est de la stimulation des acquis principalement. Là, on a trois volets. On a des ateliers de stimulation des acquis, des activités sociales et des programmes de formation et d'information. Les objectifs principaux des ateliers de stimulation, c'est vraiment pour les gens qui ont subi un AVC, c'est pour continuer de stimuler leurs acquis après la réadaptation.
Quel genre de spécialiste se joint à vous pour offrir ces services?
En fait, dépendamment des ateliers, on en a plusieurs. Certains ont été créés avec des équipes de professionnels. Donc, je vous donne un exemple. On a un atelier qui s'appelle Parlure, qui est spécifiquement pour les personnes aphasiques. Ça a été créé vraiment avec une équipe d'orthophonistes de l'Université Laval pour qu'on puisse offrir en milieu communautaire des ateliers de stimulation de la communication et du langage. Mm-hmm. C'est un exemple. Donc, on a aussi des ateliers de stimulation cognitive, on a des ateliers d'activité physique. Donc, en collaboration avec un autre organisme, nous, on a des kinésiologues qui viennent donner cet atelier-là pour un groupe de personnes dans notre organisme. Donc, c'est vraiment beaucoup de collaboration là, qu'on fait.
Exactement. Puis, bon, j'imagine que ben, c'est offert, on peut... Quand on arrive à l'hôpital, finalement, ben, j'imagine que l'hôpital fait le lien entre votre organisme et les soins que l'on donne quand on est à l'hôpital.
Exact. Les liens, on les travaille beaucoup. Par contre, on est bien là, au niveau de la capitale nationale, donc à Québec, là, on a vraiment des liens très proches avec les infirmières pivots là, en neurologie, en trajectoire neurologie. Donc, eux, ils peuvent nous référer certaines personnes avec leur consentement pour qu'on puisse faire le suivi avec ces personnes-là. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas toutes les personnes qui subissent un AVC qui sont évaluées pour avoir des services de réadaptation. parce qu'on a un bon lien aussi avec l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, qui eux aussi peuvent nous référer des gens. Mais il y a des gens qui quittent l'hôpital directement en retour à domicile. Et là, il y a un petit gap de service. Là, les gens, ils sont un petit peu pris au dépourvu avec ça.
Ils ressentent quand même des changements. Il faut les accompagner, ces gens-là. Ouais.
Exactement.
Et pour avoir été moi-même proche aidante pendant 4 ans, quelle aide vous apportez justement aux proches? Je sais à quel point c'est difficile de voir les personnes qu'on aime qui souffrent, qui sont malades. Alors, quelle aide vous leur apportez à ces gens-là, aux proches?
Donc, on a ouvert là, cette année un service de répit. Ce service-là, en fait, ça va être des blocs de 4 heures où est-ce qu'un intervenant peut aller directement quitter en fait le domicile avec la personne qui a subi un AVC et le proche aidant peut vaquer lui à ses occupations. C'est un des services qu'on a, entre autres. Sinon, on a une activité de proche aidant où est-ce que tout proche aidant là, d'une personne ayant subi un AVC peut participer. Ce qu'on remarque beaucoup, c'est un besoin d'échanger entre eux aussi.
Oui, effectivement.
Donc, on tient toujours cette activité-là. Et ensuite, on a des rencontres d'information que quelques fois par année, là, on invite des professionnels et les proches aidants peuvent participer à ces rencontres-là. Donc, c'est différentes rencontres, là, des thèmes différents à chaque fois pour informer là, les proches aidants sur certaines choses. Je vous donne un exemple. On avait une comptable fiscaliste cette année qui est venue présenter les différents crédits d'impôt disponibles pour les personnes proches aidantes et les personnes en situation de handicap.
Alors, j'imagine que vous parlez aussi beaucoup de prévention, bien sûr, d'hygiène de vie. On dit que, bon, est-ce que vous remarquez une différence, par exemple, dans entre les femmes, les hommes? Apparemment aussi que c'est pas tout le monde qui est capable de reconnaître aussi facilement les signes avant-coureurs d'un AVC.
Non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, nous, au sein de l'organisme, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Par contre, il y a beaucoup d'hommes aussi là, qui vont participer. Ça va vraiment. Puis le cheminement après l'AVC n'est pas. Tu sais, tout le monde le vit différemment. Donc, on a des gens qui peuvent nous rappeler peut-être quelques années après avoir subi leur AVC parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de services à ce moment-là. Et tu sais, moi, je trouve important de spécifier que la détresse psychologique après un AVC n'est pas nécessairement proportionnelle à la sévérité des limitations qu'ils ont. C'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait être se faire dire que les séquelles sont pas graves ou sévères, mais peut avoir une détresse psychologique quand même parce qu'il vit quelque chose d'important, ça a chamboulé le quotidien. Donc, c'est vraiment important là, d'aller chercher des services, là, puis de savoir en fait qu'il y a des services par rapport à ça.
Oui, c'est ça. Parce que évidemment, de réintégrer son quotidien, enfin, c'est des défis énormes. Tous, enfin, ont des défis différents aussi, hein, selon la gravité de l'AVC, la récupération et tout. Alors, c'est sûr que là, il faut promouvoir en même temps, de bonnes conditions de vie. Ça, on le répète assez souvent là, par rapport à l'alcool, le stress,
le tabagisme. En fait, on a un programme là, qui s'appelle, on est en train de rebâtir le programme. Ça va s'appeler par où l'AVC, par où commencer. C'est un programme de 8 séances de 2 heures en groupe de 10 à 12 personnes. Et on revient sur plein de thèmes de l'AVC, mais tranquillement. C'est de l'information, donc la gestion des facteurs de risque, comprendre l'AVC et tout ça. Donc, nous, on offre ça gratuitement. Pour toutes les personnes qui seraient en retour à domicile et pour les proches aidants, donc ils vivent ça vraiment à deux, en grand groupe. Et pour animer ce programme-là, il y a vraiment une grande cohésion qui se forme au sein du groupe, là, 8 séances de 2 heures ensemble, c'est beaucoup. Et ils vivent tous des deuils qui sont, quoique très différents, mais semblables. Donc, ils se retrouvent vraiment et on donne beaucoup d'informations. Donc, des ressources par rapport aussi aux différents thèmes, des ressources dans la communauté, etc. Là. Et ça fait une belle transition là, pour les services de l'organisme par la suite.
Ouais. J'imagine que, bon, vous n'êtes... Est-ce que, bon, vous êtes dans la région de Québec. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui prennent le relais ailleurs aussi? Est-ce que vous êtes pas les seuls?
Non, ben c'est ça. En fait, là, pour le programme que je vous parlais qu'on est en train de créer, il va y avoir des liens qui vont se faire avec différents organismes, dont malheureusement vers Montréal, on n'est pas en lien encore trop étroit avec les organismes, mais ça, ce type de programme-là va nous permettre de faire des liens. T'sais, nous, ce programme-là, mm-hmm. on vise quand même à ce que tous les organismes qui offrent des services pour l'AVC puissent donner ce programme-là. Donc, tu sais, ces liens-là vont se faire à ce moment-là. Nous, c'est sûr qu'on est au niveau de la capitale nationale. On essaie quand même, tu sais, d'aller vers les régions, mais la réalité des personnes qui ont subi un AVC, c'est souvent très difficile, tu sais, si on offre des services qui sont en ligne. C'est beaucoup du présentiel qui est important.
C'est ça. Donc, il faut que ces gens-là se déplacent. Et parfois, eh bien, ils ont eux-mêmes certaines, certaines incapacités, bien sûr. Camille Laforêt, alors, c'est le mois de sensibilisation aux AVC. On va en parler tantôt avec aussi le docteur Robert Faed. Hein. Et bon, on va... Ben, merci d'avoir parlé de cet organisme ARTER. Alors, évidemment, si on a besoin d'informations, plus de détails, ben, on va sur votre site et puis on aura d'autres... Enfin, des compléments d'informations, oui. Quoi.
Exactement. Donc, le www.arterquebec.com.
Merci beaucoup et continuez votre beau travail. On en a bien besoin.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
On accueille maintenant Dr. Robert Faed pour parler justement d'AVC. C'est un grand spécialiste neuroradiologue d'intervention à l'hôpital d'Ottawa, neurologue bien sûr. Et bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris ce temps. Je sais que vous êtes très, très occupé, là, évidemment. Alors, vous êtes finalement quelqu'un qui avait développé des techniques particulières aussi. On parle de thrombectomie, là, pour justement aider à réduire les impacts d'un AVC. Alors, parlez-nous d'abord de ce que c'est qu'un AVC.
Alors, AVC, ça veut dire accident vasculaire cérébral. On peut aussi dire ACV, accident cérébral vasculaire. Mm-hmm. C'est un groupe de maladies qui se caractérise par un problème en lien avec les vaisseaux du cerveau. C'est le plus souvent une artère du cerveau qui se bouche à cause d'un caillot sanguin. Et c'est plus rarement une artère qui se rompt, qui saigne et qui cause une hémorragie. Ça, ce sont les deux principaux sous-types d'AVC. Ce sont des maladies brutales qui apparaissent en quelques minutes. Inattendu. La minute d'avant, la victime d'un AVC va bien. La minute d'après, elle souffre de symptômes sévères. Ce sont des maladies qui sont urgentes où chaque minute compte parce que chaque minute qui passe, quand quelqu'un fait un AVC sans traitement, c'est une chance accrue de décéder ou de finir avec des séquelles permanentes.
C'est
ça. Donc, ce sont des urgences médicales absolues.
Alors, vraiment, c'est parmi les principales causes de décès et d'incapacité. Il y a différents types d'AVC, Dr. Faed.
Exactement. Donc, le principal, l'AVC ou l'ACV ischémique, on dit aussi infarctus cérébral, c'est lorsqu'un caillot de sang est ancré quelque part dans le corps, ça peut venir des artères du cœur ou d'ailleurs, se retrouve bloqué dans une artère du cerveau, ce qui coupe la circulation de sang au cerveau. Et le cerveau, comme n'importe quel organe, a besoin de sang pour vivre et fonctionner. Et cet arrêt brutal d'afflux sanguin cause des dégâts immédiats et des dégâts qui augmentent et s'intensifient après chaque minute. Mmh. Ou alors l'AVC hémorragique, qui est une rupture d'une artère dans le cerveau, souvent chez des patients qui ont une pression artérielle mal contrôlée ou alors un anévrisme ou une malformation des vaisseaux qui n'étaient pas connus et qui entraînent une hémorragie dans le cerveau. La finalité étant malheureusement la même, c'est-à-dire des dégâts rapides et d'aggravation rapide dans le cerveau qu'il faut traiter le plus vite possible.
Ouais. Alors maintenant, la grande question que tout le monde se pose toujours, c'est comment prévenir un AVC?
Alors, il y a plusieurs choses très faciles à faire. Il y a des mesures qui sont du bon sens et qui préviennent d'autres maladies aussi. La première chose, c'est qu'il ne faut pas fumer. La cigarette est l'ennemi numéro un du cerveau. La deuxième, c'est qu'il faut prendre soin de son corps et de sa pression artérielle. Il faut mesurer sa pression artérielle, aller voir un médecin si, pour vérifier sa pression artérielle et la traiter si besoin. Il faut de la même manière dépister et traiter le diabète, dépister et traiter le cholestérol, maintenir une bonne activité physique, maintenir un poids physiologique et limiter sa consommation d'alcool. En faisant tout ce que je viens de vous dire, on peut très fortement diminuer le risque d'AVC.
Déjà
cela
là.
Dit, l'AVC peut malheureusement survenir malgré tout cela et chez n'importe qui. Il n'y a pas d'âge pour faire un AVC. Le risque d'AVC augmente avec l'âge, mais on peut être malheureusement très jeune et en bonne santé et faire un AVC malgré tout. Donc en cas de doute, si on pense que quelqu'un fait un AVC, même si cette personne est jeune et en parfaite santé et n'a aucun des facteurs de risque que j'ai cités, il faut appeler le 911 le plus vite possible.
Ouais, j'ai ma co-animatrice justement qui a une question pour vous.
Docteur Fahed, je me pose la question, on parle de plus en plus des dégâts causés en fait par le stress. Est-ce que le stress joue un rôle dans les AVC? Parce que vous avez parlé d'alcool, oui, l'alcool, mais le stress?
Alors, le stress joue un rôle ne serait-ce que par le fait que le stress augmente la pression artérielle. Les gens stressés ont une pression artérielle plus élevée et une pression artérielle trop élevée augmente le risque d'AVC, peu importe le sous-type d'AVC d'ailleurs. Il y a d'autres chemins un peu plus indirects entre le stress et le risque de l'AVC. Le stress est souvent associé à une moins bonne hygiène de vie, une moins bonne alimentation, une consommation excessive d'alcool ou de cigarettes et une moins bonne activité physique. Maintenant, est-ce que le stress en lui-même augmente le risque d'AVC ou d'infarctus du myocarde? C'est difficile à prouver par les études, parce que le stress est par définition difficile à mesurer. C'est une croyance qui est partagée par bien des scientifiques et des non-scientifiques. Mais de toute façon, de par tout ce que je viens de vous dire par mécanisme indirect, oui, le stress, à travers d'autres conséquences, augmente le risque de maladie cardiovasculaire.
Alors, vous avez développé, bien sûr, des techniques. D'abord, vous avez longuement étudié, vous êtes neurologue, et on est bien chanceux de vous avoir. Vous êtes venu étudier à Montréal, vous êtes né à Paris, vos parents étaient d'origine syrienne en passant. Alors, on est très chanceux, finalement, parce que vous faites des recherches constamment aussi. Et puis, en fait, vous avez développé des techniques aussi pour réduire, évidemment, les risques de séquelles ou de mortalité,
oui,
même.
Pas moi tout seul, bien sûr, la recherche, c'est toujours un travail d'équipe, mais à l'échelle locale, c'est-à-dire le Québec, l'Ontario et à l'échelle nationale canadienne, nos équipes de recherche ont développé énormément de thérapies qui ont changé la face de l'AVC. Nous savons depuis quelques années qu'en plus de donner le classique médicament qui dissout les caillots, que l'on donne typiquement en intraveineux, il existe une technique qui s'appelle la thrombectomie, qui consiste à naviguer des petits outils à l'intérieur des vaisseaux. C'est de la microchirurgie, on ne fait pas de trou dans la tête, on ne fait pas d'incision. Tout se passe par une petite aiguille qu'on met dans la jambe et on peut naviguer à l'intérieur du cerveau. Et avec différents outils, on peut capturer le caillot lorsqu'il y a un caillot et le retirer nous-mêmes. Ça s'appelle la thrombectomie. Ça a été démontré au travers de multiples études, dont une étude canadienne. Et ça a complètement changé la face de l'AVC parce que on sait que si on réussit à faire cette technique assez vite, on peut très substantiellement diminuer le risque de décès et de séquelles. Nous avons d'autres thérapies qui sont encore expérimentales, qui sont à l'étude, qui sont en train d'être recherchées partout dans le Canada. Toutes ces études sont très lourdement soutenues et financées par la Fondation Cœur plus AVC. Je rappelle, c'est une fondation qui tient entre autres sur les donations. Et donc, les dons et les donations sont extrêmement importants pour perdurer dans la recherche et continuer à améliorer la prise en charge de ces maladies.
Et en fait, vous êtes relié à l'hôpital d'Ottawa, j'imagine. Bon, alors ces dons peuvent être acheminés via l'hôpital d'Ottawa?
Alors, les dons déjà à l'échelle nationale peuvent être faits à la Fondation Cœur et AVC, qui redistribuera les dons comme il se doit, notamment pour la recherche. Les dons à vos hôpitaux locaux, peu importe la province, et y compris l'hôpital d'Ottawa, sont bien sûr les bienvenus. Et ils sont également utilisés localement pour la recherche locale. Je pense que tous les dons sont les bienvenus parce que tous les dons seront bien utilisés et la recherche d'aujourd'hui est ce qui permet de changer le soin de demain. Donc, c'est très important de continuer à soutenir la recherche, oui.
Bon, c'est ça. Puis vous avez, bon, avec ces nouvelles techniques, ces innovations-là, finalement, vous arrivez à retirer des cailloux de plus en plus petits, des patients plus âgés. Comme vous dites, ça touche toutes les catégories d'âge. Ça peut être des jeunes qui font des AVC.
Oui, on n'est jamais trop jeune pour faire un AVC, malheureusement. Donc, encore une fois, j'insiste, si quelqu'un, vous pensez, est en train de faire un AVC, il n'y a pas d'âge pour faire un AVC, il n'y a pas de genre pour faire un AVC. Ce n'est pas plus les hommes ou plus les femmes. Il faut appeler 911 de toute façon. Et les techniques progressent. On est capable de capturer des caillots de plus en plus gros, de plus en plus petits, de plus en plus difficiles à attraper. On a des outils qui marchent de mieux en mieux. Donc, on progresse sur tous les fronts. On est de mieux en mieux équipés pour soigner les gens. Mais il faut continuer l'effort. Il faut poursuivre l'effort.
Ouais, c'est ça. Mais vous disiez que bon, ça, qu'importe, bon que ce soit les femmes, les hommes. J'ai lu quand même que les femmes pouvaient en mourir davantage. Est-ce que c'est vrai?
Alors, à l'heure actuelle, il y a encore des biais de genre. Les femmes sont sous-diagnostiquées et sous-traitées pour les maladies cardiovasculaires, notamment les AVC. Elles ont tendance à être moins rapidement reconnues comme étant victimes d'AVC et donc être prises en charge plus tardivement, ce qui affecte leur pronostic. Elles sont aussi sous-représentées dans les études. Les études qui étudient l'AVC et les traitements des AVC incluent plus volontiers des hommes que des femmes. Ce sont des biais sur lesquels il y a du progrès. On est en train de progresser. Il faut continuer les efforts. Mais oui, vous avez raison. Actuellement, les femmes sont moins bien représentées et prises en charge.
D'autres phénomènes, comme par exemple, on parle des changements climatiques. En fait, les températures extrêmes pourraient peut-être avoir un rôle aussi dans les AVC. Qu'en pensez-vous?
Alors, pour les AVC, ça n'est pas encore prouvé. C'est définitivement à l'étude que les changements de température, de climat, la pollution également puisse jouer un rôle. Ça n'est pas aussi solidement soutenu par la science que les facteurs de risque que j'ai évalués. Donc pour l'instant, ce que je peux recommander de médical, c'est de prendre en charge les facteurs de risque dont j'ai parlé. Le changement climatique et la pollution sont encore à l'étude actuellement.
D'accord. Ça, alors, on ne peut pas émettre trop d'hypothèses là-dessus, mais quand même, ça, c'est à explorer. Donc, température extrême, que ce soit le froid ou le chaud, là, trop grande chaleur, ça peut avoir peut-être une incidence, mais ça, c'est à vérifier. Maintenant, il y a aussi une thérapie par cellule souche qui serait peut-être une solution également. Enfin, je ne sais pas si c'est très avancé de ce côté-là.
Alors, ça, c'est encore expérimental. Peut-être que ça montrera son intérêt à l'avenir, peut-être pas. C'est encore à l'étude, ça ne fait pas partie de l'arsenal thérapeutique actuel. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons recommander. C'est encore expérimental. Et une fois de plus, la recherche nous donnera les réponses. Et pour la recherche, il faut de l'argent et pour ça, il faut des dons.
Eh, c'est ça. Bon, c'est le nerf de la guerre, Monsieur Fahed.
Comme toujours.
Oui, c'est ça. Alors, puis bien sûr, des médicaments neuroprotecteurs qui peuvent être administrés dans l'ambulance ou enfin le plus tôt possible. Ça, c'est sûr qu'on en a déjà, mais ça pourrait avoir des médicaments encore qui pourraient améliorer la situation grandement.
On a des mesures médicamenteuses et non médicamenteuses qui permettent de limiter les dégâts de l'AVC le temps qu'on réussisse à administrer le bon traitement à l'hôpital. Il y a encore beaucoup de pistes très prometteuses qui sont encore expérimentales. Donc, comme toujours, j'aime répéter, il faut faire confiance à la recherche et il faut soutenir la recherche.
Oui, c'est ça. Et puis, écoutez, il y a aussi, bon, tout à l'heure, on a parlé avec Camille Laforêt de l'organisme Artère qui accompagne les gens qui ont subi des AVC, mais aussi les proches aidants. Mais on parle aussi de la campagne VITE, c'est-à-dire VITE, là, c'est un acronyme, bien sûr, l'acronyme, alors V pour le visage, les symptômes là, qu'on doit reconnaître. Parlez-nous-en.
Alors, l'acronyme VITE peut littéralement sauver des vies. Il y a une campagne de sensibilisation et d'éducation de la population. Il faut que tout le monde réussisse à connaître ces signes. Il y a du progrès, il y a de plus en plus de gens qui les connaissent, mais merci de me donner l'opportunité de les expliquer sur votre antenne. C'est très important. VITE, c'est 4 lettres, et si vous retenez ce qu'elle veut dire, vous allez pouvoir sauver des vies. Ce sont les symptômes qui doivent vous faire penser à un AVC. Si quelqu'un a l'un des symptômes suivants, il faut appeler 911. Le V de vite, c'est pour visage. Si quelqu'un a d'un coup le visage affaissé d'un côté, qui a du mal à bouger, qui fait que la personne a du mal à parler, c'est un symptôme classique d'AVC. Le I, c'est pour inertie d'un membre. S'il y a un côté du corps qui brutalement est paralysé, la jambe et ou le bras, c'est un test très simple. Vous demandez à un patient, à quelqu'un que vous pensez qui fait un AVC, de lever les deux bras et lever les deux jambes, et vous allez voir qu'il y a un côté qui est plus faible, voire paralysé. Ça, c'est un symptôme classique d'AVC. Le T, c'est trouble de la parole, trouble de l'élocution. Si quelqu'un brutalement a du mal à parler ou a du mal à articuler ou a du mal à comprendre ou dit des phrases qui ne font aucun sens, il faut penser à un AVC. Et le E, c'est extrême urgence. c'est pour vous rappeler qu'il faut appeler 911 le plus vite possible.
Oui,
il faut
exactement.
Pas attendre ne serait-ce que 5 minutes de voir si les symptômes vont rentrer dans l'ordre. D'ailleurs, même s'ils rentrent dans l'ordre, il faut appeler 911 parce que c'est pas parce que les symptômes s'améliorent que le patient n'est plus en train de faire un AVC. Donc vous retenez ces quatre lettres-là et vous vous rappelez s'il vous plaît qu'il n'y a pas d'âge pour faire un AVC, que n'importe quel homme, n'importe quelle femme, n'importe qui peut faire un AVC et vous sauverez littéralement des vies en suivant ces consignes.
Docteur Robert Faed, ça a été vraiment un plaisir. Merci d'avoir encore une fois pris ce temps précieux pour nous parler de tout cela. Alors, le mois de sensibilisation aux AVC, évidemment, on va tâcher d'en reparler. Mais en tout cas, merci d'avoir pris ce temps et puis bon succès dans toutes vos démarches et dans vos recherches.
Merci, bonne journée, au revoir.
Merci. Ah, ben voilà, on est passé au travers de notre heure. Ça passe vite, hein,
ouais, ça
Nathalie?
Passe trop vite, ça passe
et oui,
trop
à notre. Ben oui, parce que toi, tu dois t'habituer à ce rythme-là. Hein, c'est quand même nouveau que tu sois avec moi en studio tout au long de cette heure. Alors, on vous retrouve demain, bien sûr, à la même heure, entre midi et 13 heures. Aime l'été. Nous serons là en grande forme et j'espère vous aussi. Au revoir.